Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 2 juillet 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui court donc jusqu'au 30 juin 2016. Nous sommes avec trois invités. Le troisième n'est pas encore là dans ce studio. Nous allons vous les énumérer. Boubacar Sissoko du RPM qui est en route. Nous avons Amadou Okoïta du Parti socialiste, parti donc de l'opposition, et enfin Bruno Mpondo Epo, directeur des affaires politiques au niveau de la MINUSMA. Merci à vous, messieurs, et bonjour. Merci donc de votre disponibilité pour cette émission. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara est à la technique. Le Conseil de sécurité a adopté le lundi 29 juin dernier le projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Le texte a été adopté à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité sous la résolution 2227. Pour l'occasion, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires politiques, Monsieur Arnaud Akodjenou, a donné la primeur de ce mandat aux députés de l'Assemblée nationale. Lors des échanges, Monsieur Akodjenou a affirmé que la MINUSMA est un outil politique du Conseil de sécurité, qu'elle n'est en aucun cas un outil de guerre, qu'elle est présente au Mali pour soutenir les autorités maliennes dans la stabilisation du pays. Il estime également qu'elle n'a pas le mandat pour lutter contre le terrorisme car cet aspect a été confié par le même Conseil de sécurité à la force Barkhane qui remplace donc la force Serval au Mali. Est-ce que cela voudrait dire que la MINUSMA n'entreprendra aucune action militaire visant les terroristes même si ses troupes subissent des pertes comme ça a été le cas aujourd'hui encore une fois à Mopti, à Tombouctou, je dirais, où la force a perdu 6 hommes, monsieur Epondo. À vous la parole.
Mais je vous remercie pour cette invitation. Je pense qu'il faudrait que l'on puisse d'abord permettre aux auditeurs de savoir ce qu'il y a dans ce mandat, plutôt que de se focaliser sur un seul aspect qui est l'usage de la force. Le mandat que vient de donner le Conseil de sécurité à la MINUSMA lui permet de faire 4 choses très importantes. La première, c'est de permettre au représentant spécial du secrétaire général de continuer à offrir ses bons offices pour entretenir la discussion avec les différentes parties au processus de paix, leur permettre de rapprocher leurs positions, d'évoluer dans le sens d'une paix définitive et d'une paix durable. C'est un élément assez important. Maintenant, en ce qui concerne les aspects sécuritaires, comme vous devriez le savoir, le Conseil de sécurité a pour la première fois demandé que 40 observateurs militaires soient déployés pour vérifier que le cessez-le-feu est effectivement respecté et que les arrangements sécuritaires sur lesquels les partis se sont engagés à mettre en œuvre sont également respectés. Vous savez que le processus de paix malien a un aspect sécuritaire qui est très important. Et je crois que le rôle du Conseil de sécurité ou les prescriptions du Conseil de sécurité vis-à-vis de la mission étaient de faire tout pour que nous puissions avoir la sécurité, la stabilité, un élément très important dans le processus de paix. Au-delà de ça, il y a le troisième aspect qui est très important. Nous venons de voir et de vivre la signature par l'ensemble des parties de l'accord de paix. Il faudrait que cet accord soit effectivement mis en œuvre et que dans la mise en œuvre de cet accord, il y a beaucoup d'aspects qui concernent les réformes institutionnelles, le développement économique et également la réforme du secteur de défense sécurité. Tous ces éléments sont importants dans ce mandat et sans oublier l'élément important aussi qui implique la question que vous venez de poser, c'est la protection des populations civiles. Donc vous dites que la MINUSMA ne peut pas user de la force.
Je n'ai fait que reporter les propos de votre chargé des affaires politiques qui était en entretien avec les députés. Et ces propos sont sur le site de la MINUSMA.
Tout à fait. Mmh. Je voudrais simplement confirmer cet élément important parce qu'il y a un gros malentendu, pas seulement au Mali, mais en général en ce qui concerne la présence des opérations du maintien de la paix. Mmh. Vous savez, lorsque le Conseil de sécurité décide d'envoyer une mission de maintien de la paix dans un pays, ça dit son nom. La Somalie a vécu pendant pratiquement 20 ans dans une situation de guerre et de conflit. Et pendant très longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de paix à maintenir en Somalie, donc on n'envoie pas les forces des Nations Unies. Ce qui veut simplement dire que pour qu'il y ait une présence des forces onusiennes, il faut qu'il y ait une paix à maintenir. C'est une opération de maintien de la paix. La raison essentielle de la présence de cette force est de permettre aux partis qui hier ne pouvaient pas s'entendre, qui hier se tirait dessus, d'avoir confiance en une institution neutre, objective, pour que progressivement, par le biais d'un accord que les deux ou les trois ou les quatre parties ont accepté, la sécurité revienne, que le dialogue soit établi et que ensemble on puisse aller vers le progrès, vers le développement. Alors, voilà l'essentiel.
La petite parenthèse que je voulais juste ouvrir à l'entame de cette émission, c'était vous faire réagir par rapport à cette actualité de ce matin qui a fait, on le sait, six casques bleus ont été tués et deux autres sont grièvement blessés. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce mandat, le renouvellement du mandat prévoit pour la gestion d'une telle situation ?
Vous savez, nous avons à faire face à une guerre asymétrique. Lorsque les militaires se déploient sur le terrain, ils s'attendent à tout. Les États, les pays contributeurs de troupes, n'envoient pas leurs fils au Mali pour mourir. Mais je dois vous dire que dans l'histoire des Nations Unies, dans l'histoire des opérations de maintien de la paix, le Mali est le pays dans lequel les Nations Unies ont perdu un maximum d'hommes. Et cela, il faut savoir que lorsque cela intervient, la réaction des hommes, la réaction humaine, est qu'il faut immédiatement réagir. Mais ça, c'est la réaction humaine. Simplement, ce que vous devriez savoir...
Ce que les pays contributeurs de troupes doivent savoir, alors.
Non, ce que vous devez savoir, parce que les pays contributeurs de troupes sont au courant des réactions humaines. Mais simplement, vous devriez savoir que l'usage de la force dans le cadre des Nations Unies obéit à des règles d'engagement qui sont très strictes et très spécifiques.
D'accord. Alors nous allons y en venir. Juste avant, je vais faire réagir Amadou Koïta qui est avec nous dans ce studio en attendant donc l'arrivée de la majorité représentée par Boubacar Sissoko qui est en cours de route. Alors Amadou Koïta, quels sont aujourd'hui vos espoirs avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA?
Merci. Je voudrais tout d'abord dire bonsoir aux auditeurs et auditrices de Studio Tamani, surtout en ce mois de carême, et souhaiter bon mois de carême à toute la communauté musulmane. Rendre hommage aux soldats de la MINUSMA qui sont tombés ce matin. Que leur âme repose à paix. Nous félicitons du renouvellement de ce mandat qui prouve que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, apporte son soutien au Mali pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays et surtout au nord. Nous saluons également le fait que ce renouvellement prend en compte, parce que quand on lit, le gouvernement avait fait certaines recommandations qui étaient de renforcer quand même ce mandat. De le renforcer parce que ce mandat s'appuie sur le chapitre 7. À le rendre plus robuste. Le chapitre 7 est un chapitre contraignant, est un chapitre qui autorise le Conseil de sécurité à faire usage de la force pour imposer la paix. Et surtout pour contraindre ceux qui veulent également menacer la paix. Donc nous, on a souhaité que ce mandat soit robuste, que ce mandat soit un mandat d'imposition de la paix, mais non un mandat où des personnes seront ciblées, ceux qui se mettront en travers de ce processus de paix. Donc voilà, entre autres, c'est un peu notre inquiétude, mais ça renvoie également à ce que le Mali fasse à cette responsabilité. C'est pour dire aux autorités maliennes, ça vous appartient de maintenir la paix dans votre pays, ça vous appartient d'assurer la souveraineté sur l'ensemble du territoire malien. Préparez-vous, cherchez à avoir une armée robuste, une armée qui pourra s'acquitter de cette mission.
Voilà. Merci beaucoup, Amadou Keïta. Alors, je me tourne vers vous, Bruno Mpondo Epo. Vous êtes directeur des affaires politiques au niveau de la MINUSMA. Le chapitre 7 vient d'être évoqué par Amadou tout à l'heure. Si vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sous quel chapitre évolue la MINUSMA? Est-ce que cela a évolué après ce renouvellement?
Nous sommes toujours sur le chapitre 7. Mais il faut savoir encore une fois qu'à la base, un mandat, ce sont des instructions politiques. Le chapitre 7 n'est pas fait nécessairement pour demander à la MINUSMA ou aux opérations de maintien de la paix d'utiliser la force. Le chapitre 7 est surtout fait pour encourager les parties à un conflit à respecter les prescriptions du mandat. Lorsque vous lisez une résolution, il y a ce qu'on appelle des considérations que le Conseil de sécurité évoque et ce qu'on appelle les parties, les décisions. Et au niveau des décisions, on engage l'ensemble des parties à un conflit. Lorsque le Conseil de sécurité dit que les parties doivent respecter le cessez-le-feu, il faudrait que l'ensemble des parties respectent le cessez-le-feu. Maintenant, si dans le cadre de ce respect de cessez-le-feu, il y a des écarts, il y a des parties qui violent le cessez-le-feu et que, en violant le cessez-le-feu, les parties portent atteinte à une population civile qui est désarmée, je pense qu'il est du devoir des Nations Unies à ce moment-là, lorsque on est face à un danger imminent, d'user de la force pour protéger à la fois le personnel des Nations Unies, mais également les populations civiles. Mais simplement, sans faire ou sans entrer dans la sémantique, l'interprétation de la notion de danger imminent est très large, très élastique. C'est pour vous dire que ce qui est demandé tout d'abord aux parties en présence dans un conflit, c'est la bonne foi et le respect des engagements sur lesquels les parties se sont prononcées. Et c'est seulement en cas de non-respect de ces engagements, on a eu dans l'histoire des Nations Unies, des situations dans lesquelles les parties n'ont pas respecté les engagements, les parties ont outrepassé ce qu'elles devaient faire, ont porté atteinte aux forces des Nations Unies, il y a une réaction. Beaucoup de gens font allusion à ce qui se passe en RDC, à l'est de la RDC. La RDC, le général Obasanjo disait qu'il était lieutenant quand il est parti pour sa première mission, l'opération de maintien de la paix. Et il est président et général à la retraite, et il est retourné en RDC, toujours pour des questions de paix. Ça veut dire qu'il y a un conflit qui a duré depuis très longtemps. Il a fallu tout ce temps-là pour que les Nations Unies puissent décider que nous allons mettre en place une brigade spéciale pour mettre fin à une rébellion qui définitivement a décidé de ne pas respecter les prescriptions et les résolutions du Conseil de sécurité.
Est-ce qu'on va accorder le même temps au Mali?
Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de processus. Vous savez, dans l'histoire des Nations Unies, les opérations de maintien de paix ont connu des évolutions. Pendant très longtemps, c'est les forces internationales seules qui constituaient les opérations de maintien de la paix. Nous sommes arrivés à une deuxième phase au cours de laquelle on trouve que les organisations sous-régionales, comme c'est le cas au Darfour, comme c'est le cas en Somalie, les organisations sous-régionales sont impliquées dans les opérations de maintien de la paix. C'est une évolution. Aujourd'hui, les Nations Unies financent la présence des organisations sous-régionales pour maintenir la paix et progressivement, on est en train d'aller vers un nouveau type d'opération de maintien de la paix dans lequel on trouve à la fois une mission traditionnelle de maintien de la paix telle que la MINUSMA au Mali, mais à côté de cela, nous avons une mission qui a véritablement un mandat pour faire la guerre, utiliser la force, et ça c'est dans le cadre de la lutte contre les djihadistes, contre les terroristes.
Merci beaucoup Bruno Mpondo-Epo, directeur des affaires politiques au niveau de la MINUSMA. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester fidèle à nos programmes Studio Tamani qui voit donc ces programmes retransmis à travers une vingtaine de radios à travers tout le pays. Et merci à donc à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur le mandat, le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui court jusqu'en juin 2016. Nous avons donc comme invité Bruno Mpondo-Epo, directeur des affaires politiques de la MINUSMA et Amadou Goïta du Parti Socialiste, parti de l'opposition, et on me fait savoir que nous n'aurons pas le représentant de la majorité présidentielle qui nous lâche à la dernière minute. Alors cette deuxième partie est consacrée au mandat de la MINUSMA concernant l'application de l'accord de paix signé entre le Mali et les groupes armés. Que doit-on attendre de la MINUSMA, Amadou Goïta, pour la mise en œuvre de cet accord?
Pour la mise en œuvre de cet accord, dans le mandat d'abord, la MINUSMA soutient cet accord à travers les 3 S, soutenir, superviser et surveiller. Mais nous nous entendons de la MINUSMA qu'elle, je ne dis pas d'utiliser la force, mais nous estimons, 24 heures après la signature de l'accord, il y a eu des propos qui ont été tenus et n'ont pas vu la réaction de l'AMINUSMA
par certains
responsables de la CEMA, notamment Djeri, qui parle de la fédération, disant que si le Mali a été incapable de faire la fédération avec le Sénégal et certains pays, le Mali doit être capable de faire la fédération avec la ZAWAD, ce qui est une escalade verbale et qui contribue à violer l'esprit de l'accord. Hein, on aurait souhaité que la MINUSMA puisse réagir pour recadrer le débat. Maintenant, notre souhait est que la MINUSMA soit là pour accompagner ce processus et qu'elle ne soit pas seulement spectatrice. Parce que quand on entend la MINUSMA après le renouvellement de ce mandat, où c'est les premiers responsables de la MINUSMA qui nous dit qu'ils n'ont pas mandat à combattre le terrorisme. Or, nous savons que les Nations Unies ont pour mandat partout au monde d'imposer la paix et la sécurité internationale, qui passe quand même à neutraliser les forces hostiles à cette paix et à cette sécurité internationale. Et la MINUSMA est chez nous, je le dis bien, sous chapitre 7, qui fait en sorte qu'elle est dotée quand même des moyens qu'il faut, les moyens humains, les moyens militaires, pour essayer d'imposer, accompagner le Mali à ce qu'on impose la paix dans notre pays. Donc ce genre de propos nous inquiète. Aujourd'hui, la MINUSMA a perdu 6 hommes, je pensais que c'était 5, vous venez de confirmer 6. Est-ce qu'elle va continuer à être observatrice? Je pense que dans ce cas pareil, il y a des propos qui prêtent à confusion et nous pensons que cela n'aide pas la MINUSMA à accomplir sa mission.
Bruno Mpondo-Epo, une réaction?
Non, ce que nous retenons de ce processus, c'est que le 15 mai et le 20 juin, l'ensemble des parties au processus se sont engagés à aller vers la paix. Et je crois que cela ouvre la porte à la communauté internationale, au gouvernement, à l'ensemble du peuple malien, à soutenir et à mettre les efforts tous ensemble pour que nous puissions restaurer la paix au Mali. Ça, c'est l'élément le plus important. Ce que nous retenons également, c'est que en dehors des parties signataires de l'accord, l'ensemble de la population malienne s'est mobilisé pour soutenir cet accord et sa mise en œuvre. C'est ainsi que des organisations de jeunes, des organisations de femmes ont sillonné les régions du Mali pour expliquer l'accord et essayer d'avoir le soutien des populations à sa mise en œuvre. Je crois que cette activité, ce geste fort des jeunes, des femmes, bientôt suivi par les partis politiques et l'ensemble de la presse, indique que le peuple malien est prêt pour la paix.
D'accord.
Maintenant, que que doit faire la MINUSMA et la communauté internationale dans son ensemble. Je crois que avec le temps, nous pourrons parcourir élément par élément tout cela, mais ça renforce la conviction dans la communauté internationale que la paix est possible. D'accord. La paix est faisable et il faudrait que tous nous puissions nous y engager.
Alors, toujours dans la question de la mise en œuvre, une partie importante du nouveau mandat donné à la MINUSMA par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2227 concerne l'appui au cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des groupes armés, ainsi que le redéploiement progressif des forces de défense et de sécurité maliennes, en particulier dans le nord du Mali. Comment est-ce que la MINUSMA compte garantir cette portion de cet accord?
Vous parlez beaucoup de la MINUSMA. Je voudrais vous dire que la mise en œuvre de l'accord, ce sont les parties. Alors, comment est-ce que les parties qui ont signé cet accord vont en garantir l'application? La MINUSMA et l'ensemble de la communauté internationale est là pour accompagner. Maintenant, quel est l'accompagnement de la MINUSMA? Vous venez de le dire, les parties ont signé un cessez-le-feu et des engagements sécuritaires. Cela signifie quoi? Cela signifie premièrement que dès lors que vous vous êtes engagé à cesser de tirer, à cesser des hostilités, vous vous retirez dans les zones dans lesquelles il vous a été demandé de vous retirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait que vous puissiez, pour créer la confiance, non seulement vis-à-vis des autres parties, mais particulièrement vis-à-vis de la population, pas seulement de la population à l'intérieur, mais surtout la population qui a quitté du fait des hostilités,
les réfugiés, donc.
Les réfugiés et les déplacés, vous devez regrouper vos hommes pour qu'on puisse savoir parmi eux quels sont ceux qui sont aptes à continuer à servir le Mali, que ce soit au sein de l'armée ou dans la société civile ou même dans le secteur privé, quels sont ceux qui ne peuvent plus servir et qui doivent soit retourner à l'école ou apprendre un métier. Il faut que cela soit fait. Ça, c'est ce processus qu'on appelle le cantonnement. À l'issue de ce processus, on va commencer véritablement le désarmement. Le désarmement, ça permet donc, dans un premier temps, puisque la confiance n'est toujours pas établie, et selon les modalités spécifiques qui sont choisies par les parties, ça consiste à mettre les armes de côté, donc désarmer, vous mettez les armes de côté, et ensuite commence donc le processus d'intégration, de réinsertion, qui va permettre à ceux qui vont aller dans l'armée d'aller dans l'armée, ceux qui vont aller dans la fonction publique ou dans la fonction privée d'aller dans la fonction publique ou dans le privé, et ceux qui veulent simplement se reposer, de se reposer. C'est-à-dire que c'est une phase qui est très importante parce qu'elle permet de recréer la confiance entre les communautés, la confiance entre les parties, et la MINUSMA, l'ensemble de la communauté internationale, est là pour accompagner cela. Parce que pour faire un processus de cantonnement, cela coûte excessivement cher. Il faut des sites de cantonnement, il faut nourrir les gens, il faut que les gens puissent être soignés. Lorsque on arrive dans le processus de démobilisation et de réintégration, là également, il faut mettre en place suffisamment de programmes qui permettent aux gens de retrouver une activité qui leur a manqué et qui peut-être a été celle qui a poussé nombreux à rejoindre les rangs des mouvements armés.
D'accord. Alors, la MINUSMA, c'est un mandat, mais c'est aussi des limites. Aujourd'hui, ces limites sont clairement définies. Amadou, comment est-ce que l'État malien doit prendre la mesure de et l'importance de la mise en œuvre de cet accord, l'application de cet accord, par rapport à ses propres responsabilités? Quel est son rôle dans la mise en œuvre de cet accord?
Non, son rôle, c'est de jouer d'abord le rôle de leadership, puisque c'est ce retour de la paix, de la sécurité dans notre pays, incombe d'abord aux Maliens, et en premier lieu aux autorités maliennes, qui ont été élus pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali, à travers le gouvernement, doit impulser une dynamique, sinon créer les mesures de confiance. C'est là extrêmement important. Notre souhait était qu'après la signature de cet accord qui est plus d'attentats, ce que nous avons connu ce matin, nous perturbe tous. Aujourd'hui, il y a quelques jours, ce n'est plus le nord, c'est le sud qui est attaqué.
Fakola et Nara.
Fakola a été attaqué, Nara a été attaqué, Misele a été attaqué, ça inquiète. Donc aujourd'hui, le gouvernement malien doit prendre toutes les mesures nécessaires, d'abord sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Essayer de réunir l'ensemble des Maliens autour de cet accord. C'est vrai, ce n'est pas l'unanimité autour de l'accord. Ça, je l'ai dit, nous avons eu des inquiétudes par rapport à l'accord.
À l'opposition.
Nous continuons à l'opposition à avoir des inquiétudes. Mais nous estimons qu'à partir du moment où cet accord a été signé, qu'il y a la caution, sinon la garantie de l'ensemble de la communauté internationale, bon, la mise en œuvre de façon intelligente de cet accord, si elle doit nous amener à la paix, ok, on verra. Mais l'État malien doit jouer sur toute sa partition, qui est de dire que les autres sont là pour nous aider, c'est nous qui devons jouer le premier rôle et que nous ne devons pas attendre les autres. Et voilà pourquoi j'estime aujourd'hui que le gouvernement doit aller sur le terrain. Il y a le comité de suivi qui doit être mis en place, si je ne m'abuse, même si la première tentative a été houleuse. Mais aujourd'hui, nous espérons que tout le monde sera là et que cette paix ne sera pas un mirage. Que réellement, ce sera la volonté de toutes les parties, puisqu'elle est nécessaire à notre pays aujourd'hui.
Merci Amadou Okuita. Vous êtes du Parti Socialiste, parti de l'opposition. Alors Bruno Mpondo, vous avez insisté sur ce que la MINUSMA a mandat de faire au Mali et ses limites. Mais aujourd'hui, on doit insister sur les moyens de cette force onusienne, selon les services de votre département de la MINUSMA. La force dispose aujourd'hui de plus de 9000 militaires déployés au Mali, dont 90% dans le nord du pays. Est-ce que cela veut dire que les problèmes de logistique et d'effectifs sont réglés?
Non, parce que nous n'avons pas, nous devrions être autour de 14 000 hommes et nous ne sommes pas encore 14 000 hommes. Donc ça veut dire qu'il faut encore faire un effort vers les pays contributeurs de troupes pour que nous puissions avoir la totalité des hommes ainsi que les moyens logistiques appropriés. Mais je voudrais simplement que vous compreniez que dans une opération de maintien de la paix, ce n'est pas le nombre des hommes, ce n'est pas la logistique, ce n'est pas la force de la composante militaire qui donne ou qui apporte la paix dans un pays. Ce qui crée des conditions pour la paix dans un pays, c'est le respect par les parties de leurs engagements. Vous savez, vous avez parlé de ce que le gouvernement doit faire pour que cet accord soit effectivement mis en œuvre. Mais vous savez qu'il y a, dans cette situation de conflit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus accès aux services sociaux de base.
Dans les régions du Nord.
Dans les régions du Nord. Mais ne pas avoir accès aux services sociaux de base, c'est un problème important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès aux services sociaux de base? Il faut un minimum de présence de l'État. Donc, il faudrait que très rapidement, grâce à la confiance créée par le respect par les parties des accords de cessez-le-feu, que de manière progressive, l'ensemble des parties puissent créer des conditions pour que les populations puissent réapprendre à aller à l'école, réapprendre à aller dans les centres de santé. Cela ne peut pas se faire si l'État n'est pas sur le terrain.
Alors, vous entendre, on a l'impression que les parties ne doivent rien attendre de la MINUSMA et c'est à elles de faire la paix et de faire en sorte que la situation sécuritaire s'améliore.
La MINUSMA accompagne.
Mais de quelle façon ?
L'accompagnement de la MINUSMA, c'est dans la vérification de la mise en œuvre effective des engagements sécuritaires et du cessez-le-feu par les parties. Ça, c'est l'accompagnement de la MINUSMA. L'accompagnement de la MINUSMA, c'est dans la conduite des patrouilles pour vérifier que effectivement la zone ou la localité est calme. C'est ça l'accompagnement de la MINUSMA. Dans un premier temps, avant qu'on ne commence la question du cantonnement et de tout le reste. Mais l'accompagnement de la MINUSMA ne se limite pas simplement au plan militaire, à la vérification et au maintien du cessez-le-feu. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà parce que la MINUSMA sur le terrain travaille avec la population. La MINUSMA apporte à la population là où les services sociaux de base ne sont pas efficients ou sont inefficaces ou sont absents.
Avec tous les risques.
La MINUSMA prend des risques. Vous savez par exemple que dans un certain nombre de localités, la MINUSMA fournit l'électricité par exemple à Kidal. La MINUSMA fournit l'eau par exemple à Ménaka. L'AMINUSMA a fourni l'électricité dans certaines localités au niveau de Gao. Donc tout ça, c'est des éléments qui permettent à la population de commencer à réapprendre à vivre. L'AMINUSMA aide à la restauration de l'autorité de l'État parce que on réhabilite les cours et les tribunaux. Donc ça fait quand même, en attendant que la paix définitive crée les conditions pour un retour à une vie normale, je crois qu'il y a un certain nombre de choses que l'AMINUSMA fait à travers les régions du Mali.
Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission pour la troisième et dernière partie.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit ce soir sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui court jusqu'au 30 juin 2016. Et pour cela, nous avons deux personnes pour en débattre. Amadou Koïta du Parti Socialiste, Parti de l'Opposition, et Bruno Epondo Epo, directeur des affaires politiques au niveau de la MINUSMA. Nous avons fait appel à la majorité présidentielle et malheureusement, le représentant n'a pas pu nous rejoindre dans ce studio. Cette troisième partie est consacrée au bilan et à l'avenir donc de la MINUSMA au Mali. Alors s'il y a un bilan à tirer aujourd'hui de la présence de la MINUSMA dans le pays, Amadou Koïta, quel serait ce bilan?
Ce bilan est mitigé. Il est mitigé puisque aujourd'hui la MINUSMA n'a pu installer d'abord une confiance entre elle et les populations du Mali, notamment les populations du Nord. À tort ou à raison, les gens ont pensé que l'AMINUSMA n'a pas été impartial. D'ailleurs, est-ce qu'elle avait été impartiale, puisque sa mission était d'accompagner le Mali. Accompagner le Mali à instaurer la souveraineté et l'autorité de l'État. Sa mission aussi, c'était d'engager un processus de dialogue avec ceux qui ont pris les armes, les nationaux qui avaient des revendications politiques. Mais l'AMINUSMA n'a pas été compris dans sa mission. Est-ce que c'est elle qui est restée confinée? C'est des questions qu'on se pose. Même aujourd'hui, avec le renouvellement de ce mandat de l'AMINUSMA, nous nous posons des questions. Quand on regarde que l'AMINUSMA a tous les moyens, l'AMINUSMA a le tiers du budget malien, c'est quand même 900 et quelques millions de dollars pour un mandat d'un an, selon de 12 mois, et voir que sa mission se limite seulement à être observateur, nous nous inquiétons. Parce que quand on apprend, l'AMINUSMA nous dit qu'elle n'a pas mandat à combattre des terroristes, nous demandons la raison d'être de l'AMINUSMA chez nous. C'est vrai, l'opération Serval est là, mais l'AMINUSMA a remplacé l'AMISMA, qui était une force africaine de la CEDEAO, qui accompagnait les autorités maliennes, l'armée malienne, les forces armées de sécurité maliennes, à asseoir l'autorité et l'intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire malien. Mais nous espérons, elle a fait beaucoup de bonnes choses aussi, ça il faut le reconnaître. Elle a aidé le Mali sur le plan social, elle nous a aidé également à ce que nos institutions à travers les territoires occupés pendant un moment bien déterminés, notamment Gao, Tombouctou.
Même Kidal
pendant un moment. Mais nous demandons à l'AMINUSMA d'être encore plus engagé et que nous attendons plus d'elle. Nous savons que nous sommes l'AMINUSMA parce que nous sommes membres du Conseil de sécurité. Nous exigeons, mais nous comprenons également.
Alors, merci beaucoup. Ça, c'était la voix de l'opposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité présidentielle n'a pas pu effectuer le déplacement. Alors, Bruno Epondo Epo, vous êtes directeur des affaires politiques de l'AMINUSMA. Un bilan de l'AMINUSMA après 2 ans d'exercice?
Je crois que le bilan de l'AMINUSMA, c'est celui du peuple malien. C'est-à-dire que l'AMINUSMA constate que le peuple malien a tourné le dos à la guerre et que le peuple malien actuellement est ouvert vers la paix. Ça, c'est ce bilan. Le bilan de l'AMINUSMA, c'est que une fois l'accord de paix signé, il est important que tout le monde s'engage vers sa mise en œuvre. Le Conseil de sécurité l'a si bien compris que le Conseil de sécurité a demandé à l'AMINUSMA de jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de cet accord. Et je crois que ce que le peuple malien va attendre de l'AMINUSMA, c'est un, cet accompagnement pour que le cessez-le-feu soit maintenu et que nous puissions aller vers la réforme du secteur de sécurité. ce que le peuple attend de la MINUSMA, c'est que la MINUSMA, vous l'avez dit, chers collègues, que la MINUSMA est là pour accompagner le gouvernement. Nous allons soutenir les efforts du gouvernement pour la réforme de la justice. Nous allons soutenir le gouvernement pour les réformes institutionnelles qu'il faut. Nous allons soutenir le gouvernement avec l'ensemble de la communauté internationale pour essayer d'élaborer de nouvelles stratégies pour le développement de l'ensemble du Mali. Et donc, c'est ça ce que le peuple attend. Et ça, c'est l'accompagnement que la MINUSMA s'engage à apporter au peuple malien. Donc, le bilan en tant que tel, pour nous, il est positif dans ce sens qu'il y a eu un progrès important. Les gens se parlent aujourd'hui, les gens s'embrassent aujourd'hui. C'est très beau. Et je crois que ça, c'est aussi grâce à la présence de la MINUSMA et de la communauté internationale.
D'accord. Alors, ce bilan, il est élogieux, mais également comporte quelques points d'ombre, notamment sa mise en cause confirmée par une enquête indépendante commanditée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon lui-même, concernant la manifestation qui a dégénéré à Gao. Est-ce que aujourd'hui, avec ce renouvellement, la MINUSMA peut donner les garanties que de tels actes ne se reproduisent plus?
Je crois que c'est des actes qui sont rarissimes. C'est des actes rarissimes. Je vous dirais de mémoire que lorsque nous quittions le Rwanda, on a vécu l'assassinat par les génocidaires des Belges. Le contingent qui suivait, c'était le contingent nigérian. Les Nigériens n'ont pas attendu qu'on leur donne l'autorisation de tirer. Ils ont tiré pour se défendre. Donc je crois que lorsque on arrive à ce genre de situation, la réaction est humaine. On vous dit la réaction, c'est des réactions humaines. Ce n'est pas une politique délibérée de sortir de son mandat. Ce n'est pas une politique délibérée de commettre des erreurs. Les erreurs peuvent arriver au cours de l'accomplissement du mandat. Et je crois que on doit le comprendre en tant qu'erreur. Et comme vous le savez, ce ne sont pas des erreurs qui sont restées impunies. Vous avez dû apprendre que les Nations Unies ont demandé le retrait des personnes qui étaient à la base de cette tuerie, mais pas seulement les Nations Unies, le Rwanda a également amené toutes ces personnes au tribunal. Donc c'est vous dire que c'est une erreur, mais c'est une erreur qui a été préjudiciable. C'est une erreur qui a été préjudiciable à l'image des Nations Unies, c'est une erreur qui a été préjudiciable à la population malienne, mais les Nations Unies ont des règles. Et les Nations Unies ont appliqué ces règles. C'est pour ça que ces personnes sont aujourd'hui devant la justice. Donc, bien entendu, il y a eu ces erreurs-là. Ces erreurs sont regrettables. Je pense que nous l'avons dit de manière beaucoup plus claire. Mais en même temps, parce que ce sont des erreurs, les Nations Unies se sont engagées à offrir une compensation aux victimes, ce qui également est fait. Donc, c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Quand les gens sont sur le terrain, ils sont sous la pression de plusieurs facteurs et il peut arriver que exceptionnellement, et je pense dans des cas rarissimes, ça dégénère.
Merci beaucoup pour ces explications, Bruno Mpondo Epo. Je vais y arriver. Alors, Amadou Koïta, est-ce que vous comprenez loin de nous l'idée de remuer le couteau dans la plaie? Mais lors de ces événements, le lendemain de ces événements, on l'a décrypté avec vous ici. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saluez le dénouement de cette affaire?
De Gao?
Oui.
Oui, les enquêtes ont été menées. Les responsabilités ont été étudiées. Bon, je ne savais pas que les familles avaient été dédommagées. Si cela est le cas, c'est à saluer. Maintenant, c'est notre souhait que cela ne se reproduise plus. La MINUSMA n'est pas là pour ça. Elle est là pour protéger les populations civiles. C'est des incidents malheureux qui peuvent arriver. Mais l'essentiel, la promptitude avec laquelle les autorités maliennes d'abord ont réclamé des enquêtes, la MINUSMA, le Conseil de sécurité s'en est saisi, une commission indépendante est venue, que les coupables doivent être sanctionnés à la hauteur du crime commis. Notre souhait est que cela se reproduise plus dans notre pays et que les Maliens sachent que la MINUSMA est là pour nous accompagner et que nous devons aussi faciliter la tâche à la MINUSMA puisque c'est nos frères qui sont venus d'ailleurs pour nous aider. pour nous aider à sortir de cette impasse, pour nous aider à construire la paix et pour nous aider à vivre ensemble.
Quel sera le rôle de la MINUSMA pour le retour des réfugiés, Bruno Ipondo?
Nous avons déjà une délégation de la MINUSMA qui se rend dans les camps de réfugiés, d'abord au Burkina Faso, ensuite en Mauritanie, pour essayer de voir la situation. Et je pense également que le gouvernement lui-même a effectué des missions pour évaluer. Maintenant, au niveau du retour, la MINUSMA va jouer un rôle important. L'ensemble de la famille des Nations Unies se prépare de manière progressive en mettant d'abord en place en l'instant ce qu'on appelle un appel consolidé pour que nous puissions avoir suffisamment de fonds pour soutenir les activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé. Et je crois que l'ensemble de la communauté internationale est en train de se préparer à cela. Et c'est pour cela que l'on dit qu'il faut faire très vite, on ne doit plus attendre. Une fois le cessez-le-feu est établi, observé, il faut très rapidement que l'on puisse créer des conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Et ce n'est que à partir des cantonnements, à partir de la discipline observée par les différents mouvements, qu'on peut voir tout ça revenir de manière progressive. Ce n'est qu'à partir d'une certaine présence de l'État au niveau de l'ensemble des régions qu'on peut voir le retour progressif des réfugiés, et ce n'est que lorsque les populations auront la certitude que, en retournant, elles ne seront pas victimes de ceux qui sont restés. Donc il y a un grand travail que le gouvernement, les communautés, la population doit faire pour que les réfugiés se sentent en confiance, et un grand travail que le gouvernement doit faire pour que les services sociaux de base soient rétablis. Mais vous savez, pour l'instant, il y a une certaine limite à cela. La limite à cela, c'est que, pour une raison ou pour une autre, l'État n'a pas encore accès à toutes les régions. Mais avec les travaux qui commencent au niveau du comité de suivi et des sous-comités, les dispositions seront prises pour que, ensemble, l'État, les mouvements, tous se mettent ensemble pour faire avancer le retour des services sociaux de base et le retour de l'autorité de l'État dans les différentes régions.
Tout cela repose sur le calendrier de la mise en œuvre. Comment est-ce que vous le voyez, Amadou Koita?
C'est un calendrier de 18 mois. Je pense que c'est un calendrier tenable. Il est tenable. Maintenant que tous les acteurs s'y mettent, parce que les Maliens sont pressés pour ce retour de la paix, nous sommes pressés que nos réfugiés regagnent le Mali, nous sommes pressés que les élections communales aient lieu, nous sommes pressés que la sécurité retourne au Mali. Nous sommes pressés qu'on ne parle maintenant que du développement. Et on ne peut parler de développement que lorsqu'il y a la paix et la sécurité. Et nous pensons que ce calendrier de 18 mois doit être tenable.
Est-ce qu'il est tenable?
Le calendrier va, il faut dire qu'il va au-delà des 18 mois. C'est-à-dire qu'il y a une période de 18 à 24 mois qui est la période intérimaire, qui en fait est une période de recréation de la confiance. Il faut que les gens apprennent à revivre ensemble encore. Et à la fin de cette période, on doit avoir l'ensemble des dispositions pour les nouvelles institutions et pour le développement. C'est un calendrier que la communauté internationale et l'ensemble des membres du comité de suivi vont discuter demain. Et il faudrait qu'il soit mis en œuvre. Et ça, c'est un engagement ferme de la communauté internationale. Et je pense que nous tiendrons sur ce calendrier.
D'accord. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ainsi s'achève cette émission, une émission qui réfléchissait sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, un mandat qui court désormais jusqu'au 30 juin 2016. Merci à Bruno Mpondro Epo, directeur des affaires politiques au niveau de la MINUSMA, qui était là et également ici avec nous dans ce studio, Amadou Okoye, du parti PS, du parti socialiste et parti de l'opposition. Donc malheureusement, la majorité n'a pas pu effectuer le déplacement. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique, Nouhoum Diré est à la régie vidéo, Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud
Mouni. Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de notre radio partenaire.
Studio Tamani, on n'y tient pas à la Céline Labénin Kosso. aw kan bɛ sini ni radio so kelen nu sanfɛ.
Studio Tamani gawar fondo guy suba irge chorku bay.